Loin.
Toc. Donc du coup, tout ce qui est habillage, nous on le lancera par la suite, on le refera
Ouais.
l'habillage. Donc de toute façon, au moins ça nous permettra de ne pas avoir de son. Si on doit couper des parties qui ne sont pas intéressantes, qu'on ne juge pas intéressant, on pourra toujours l'enlever.
Un, deux.
Ouais, c'est bon. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne d'RTVFM dans le premier numéro de l'émission Un homme, un territoire, une émission qui vous fera découvrir un homme, un attachement à son territoire, un métier et une passion. Nous recevons donc aujourd'hui pour ce premier numéro Monsieur Adrien Morenas, élu député de la 3e circonscription de Vaucluse au parti LREM La République En Marche. Monsieur Adrien Morenas, bonjour.
Bonjour.
Et donc merci d'avoir accepté l'invitation pour participer à cette émission. Vous êtes né, je rappelle, le 1er janvier 1982 à Carpentras. Vous êtes donc un homme au plus près de votre territoire.
C'est exact.
Voilà, issu donc de Carpentras. Et vous êtes élu député donc, de la 3e circonscription en fonction depuis le 22 juillet 2017. Pour cette interview, je serai accompagné de Théo. Bonjour Théo.
Bonjour Florian.
Et Théo,
bonjour
donc...
Adrien Morenas.
Bonjour Théo.
Et donc Théo, je te laisse commencer.
Alors, je tiens à rappeler bien sûr que vous êtes effectivement, on le rappelle, à nouveau député de La République En Marche, le parti politique. J'aimerais savoir pourquoi avez-vous intégré ce parti politique et est-ce que vous avez toujours été intéressé par la politique ?
Alors, je vais commencer par la deuxième réponse. Donc oui, j'ai toujours été intéressé par la politique, mais j'ai jamais trouvé en un parti, si vous voulez... la motivation suffisante pour l'intégrer et aller plus loin. Jusqu'au mois d'avril 2016, où Emmanuel Macron a lancé le mouvement En Marche. Et cette envie de réforme, cette envie de changer notre pays, cette envie d'aller de l'avant, en fait, m'a fait réellement sauter le pas et rentrer dans le mouvement. La deuxième chose qui m'a poussé à rentrer en politique sont les élections régionales de 2015, où le Front National a failli passer. Et où mon territoire, qui est plus du côté de Saint-Didier, Pernes, Mazan, a basculé avec près de 65% de votes pour le Front National.
Alors, on peut rappeler, oui, effectivement, la circonscription, ça couvre combien de communes à peu près ?
Alors, ma circonscription, couvre, qui est la troisième du Vaucluse, couvre 15 communes, donc Saint-Didier, Venasque, enfin tout ce côté-là jusqu'à Mazan, Carpentras une partie, puisque Carpentras est séparée en deux, et elle va jusqu'à Sorgues, pour la partie sud, et Courthézon.
D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous retracer votre parcours avant de devenir député ? Alors, je sais que de votre enfance avant d'être élu député, voilà, il y a quand même du chemin.
Bon, alors une enfance sur Saint-Didier, partagée entre Saint-Didier et Avignon. Suite à ça, je me suis engagé dans la Marine nationale à l'âge de 17 ans. Je suis parti faire une école de spécialisation à Montpellier, mes classes à Cherbourg. J'ai été affecté en Bretagne pendant 4 ans et je dépendais d'un bateau bien connu qui s'appelle le porte-avions Charles de Gaulle. Et donc je suis rentré officiellement en 2000 dans l'armée. Et à partir de 2001, j'ai commencé à faire différentes missions extérieures, notamment en Afghanistan suite aux attentats du 11 septembre. En 2008, je décide de quitter l'armée. J'intègre une entreprise qui est spécialisée dans la sécurité civile. Pendant 2 ans, suite à un plan social, cette entreprise ferme et je me retrouve sans emploi. Donc je décide de monter ma société en électricité générale. Et à 30 ans, une envie de faire autre chose, une envie de bouger. Et je décide de reprendre mes études en ostéopathie. Et actuellement, je suis toujours étudiant en 5e année à l'école d'Avignon.
Alors on l'a dit, hein, vous êtes effectivement ici même député dans la 3e circonscription du Vaucluse. Mmh. Vous êtes également à l'Assemblée nationale. Est-ce que justement c'est pas trop compliqué à gérer votre emploi du temps ?
Non, c'est un rythme à prendre, c'est comme tout travail. Hein, la découverte doit être rapide parce que c'est un travail dans lequel on ne vous laisse pas le temps de réfléchir ou de vous poser, si vous voulez. Donc non, le rythme on le prend facilement, c'est un rythme qui est partagé de manière, on va dire, assez équitable. Je passe 3 jours sur Paris, des mardis au jeudi, et le reste du temps, je le passe en circonscription pour les administrés locaux.
Du coup, c'est un peu difficile d'alterner vie personnelle et vie professionnelle, finalement.
Il faut savoir garder une partie pour la vie personnelle, parce que c'est vrai que c'est un travail qui prend énormément de temps, et on pense politique, on se lève politique, on mange politique et on dort politique.
Alors justement, en quoi consiste ce rôle de député ? On va rentrer un peu plus en détail parce que des fois c'est un peu abstrait pour les gens qui sont à l'extérieur.
Ouais. Alors, un député, c'est très simple, il est élu dans une circonscription pour la représenter à l'Assemblée nationale. Son travail, son premier travail, c'est fabriquer, voter et la loi et contrôler les lois, les différentes lois qui ont été votées par le passé pour voir si elles sont efficientes. Ça, c'est un boulot à Paris. Et après, en circonscription, il y a un boulot de représentation où on se doit, pour être le plus efficace à Paris, de rencontrer les associations, rencontrer les élus locaux, toutes les personnes du territoire, simple administré aussi, pour prendre, on va dire, le pouls de ce qui se passe chez nous, pouvoir le porter à Paris et pouvoir amender les différentes lois que le gouvernement essaye de, enfin, fait passer pour qu'elles soient la plus efficiente sur le territoire.
Et au regard de votre expérience de député, parce que maintenant ça fait un peu plus de 8 mois que vous êtes député, est-ce que vous pensez que l'Assemblée nationale puisse vraiment être force de changement et comment?
Elle l'est de fait. Aujourd'hui, quand on a vu quelques textes, et le dernier texte qui est passé à l'Assemblée nationale en est la preuve, un texte comme la loi asile-immigration montre toute la diversité de notre groupe, mais toute la diversité de l'Assemblée nationale. Et ce texte, finalement, qui a été porté par le ministre de l'Intérieur, a été amendé, je crois, avec plus de 1200 amendements, ce qui prouve bien que... vu le nombre de députés, le changement qu'on veut apporter pour notre société, quel que soit le bord politique d'ailleurs, est très important.
Alors, quel est le lien du coup au quotidien avec la circonscription ?
Le lien, c'est Stéphanie, ma collaboratrice, qui le fait sur place pendant que je suis absent et qui s'occupe de recevoir dans ma permanence à Carpentras nos administrés, les différentes associations, les maires et toutes les personnes qui souhaiteraient me rencontrer. Et qui fixe des rendez-vous, car je reçois en permanence le lundi. C'est un jour qui est réservé justement à l'accueil d'administrés. On a décidé depuis peu de se rendre dans les différentes mairies de la circonscription pour aller au plus proche du territoire. Nous restons connectés, puisque maintenant, avec la facilité des réseaux des médias, et nous pouvons communiquer, ce qui fait qu'en fait, je ne quitte jamais réellement le territoire. Et le territoire ne me quitte réellement jamais.
Et alors, bien sûr, vous n'êtes pas tout seul, parce qu'il y a une équipe qui est autour de vous. Et comment ça se passe avec vos attachés parlementaires ?
Bien, comme je vous ai dit, j'ai Stéphanie qui est en circonscription. Oui. Et j'ai un deuxième collaborateur sur Paris qui s'appelle Maurice Houzard. Et nous avons créé un petit staff, contrairement à beaucoup d'autres députés qui préfèrent avoir de gros staffs. Mais un staff, en fait, où on est très unis. Et chaque décision qu'on prend, en fait, elle se prend à trois. C'est-à-dire que je prends une décision. On voit si c'est efficient pour la circonscription, on voit si à Paris ça va porter, et de là, on définit un axe de politique.
Alors, monsieur Adrien Morenas, juste avant qu'on fasse une petite pause musicale, je crois qu'on a une question justement sur le style musical que monsieur Adrien Morenas aime, voilà, ou préfère en tout cas.
Alors, mes goûts sont assez éclectiques. J'ai été bercé par une maman qui écoutait les Rolling Stones, et, les Doors, Queen. Et j'ai découvert un groupe qui s'appelle Daft Punk fin des années 90. Donc c'est vrai que du rock, j'ai un peu basculé sur tout ce qui est électro. Mais je reste quand même avec un profond amour pour le rock et la pop.
Et ben, en tout cas, Adrien Morenas, on va faire une petite pause musicale. Et puis après, on va revenir pour continuer à parler plus en détail de la circonscription et des actions que vous menez, notamment à tout de suite sur RTV-FM.
Donc là, on fait un petit break. Ouais, mais sur appuie sur pause, pas sur stop.
Et nous sommes toujours sur RTV-FM dans l'émission Un homme, un territoire avec notre invité Adrien Morenas qui est toujours parmi nous.
Oui, merci, bonjour.
Et avec Florian qui est toujours parmi nous également. Alors Adrien Morenas, maintenant que les auditeurs vous connaissent un petit peu plus, on aimerait maintenant connaître vos actions, justement, quels sont vos dossiers qui vous tiennent, on va dire, le plus à cœur en tant que député et que vous souhaitez réaliser sur le long terme.
Alors, on a été élu sur la base d'un programme. Et mon rôle ici en circonscription en tant que député, c'est expliquer ce programme au plus près des habitants de la circonscription, essayer d'effacer leurs peurs, répondre à leurs questions de la manière la plus sincère possible, expliquer ce qui va changer pour eux aussi. Donc c'est le but des différents ateliers législatifs qu'on mène sur l'ensemble de la circonscription. Et à Paris, après, en circonscription, les dossiers vraiment qui reviennent à chaque fois, c'est l'emploi, c'est le pouvoir d'achat. Et c'est le logement également qui sont trois réelles problématiques que l'on rencontre. Il faut savoir que le Vaucluse, et notamment notre circonscription, est une des plus sinistrées de France par l'emploi. Donc moi, mon rôle en tant que député aussi, c'est d'aller voir des différents intermédiaires pour qu'ils puissent venir investir chez nous et créer de l'emploi. Et enfin, un dernier sujet qui est majeur, c'est la sécurité. Donc on essaye avec le ministre de l'Intérieur de trouver des solutions pour la circonscription, plus globalement pour le département. Et récemment, nous avons réussi aussi au niveau économique à avoir Action Cœur de Ville, dont Carpentras a été lauréate, et qui offre une enveloppe qui est non substantielle, puisque c'est 4,5 millions d'euros par an pour la commune de Carpentras, afin qu'elle puisse se développer au mieux.
Et justement, vous venez de parler donc d'Action Cœur de Ville. En quoi ça va changer le quotidien des Carpentraciens ?
Bien, le quotidien, c'est les mairies qui sont lauréates de ce label, se voient remettre une enveloppe et avec cette enveloppe, doivent investir et redonner une vie au centre-ville. On sait que le centre-ville de Carpentras a été longuement sinistré, ce qui fait qu'il y a eu une désertification de ce centre, tant au niveau commercial qu'au niveau des habitants. Et le but d'Action Cœur de Ville, c'est réellement de réinvestir les centres-villes, leur redonner une vie et faire en sorte que les habitants qui habitent les villes lauréates se sentent bien et se réapproprient leur ville.
Alors un sujet qu'on a entendu aussi dernièrement, c'est le tribunal de grande instance de Carpentras. Ah. Je crois que dernièrement, effectivement, le Premier ministre Édouard Philippe a donné des garanties, il me semble.
Alors pas que le Premier ministre. Le Premier ministre n'a fait que confirmer ce que nous avait déjà dit la garde des Sceaux. Donc c'est un dossier, oui, que je suis depuis le début, alerté par les avocats. Donc j'ai de suite pris le dossier en main, demandé des rendez-vous avec la garde des Sceaux, qui nous a très gentiment reçus et qui a pris en considération toutes nos demandes, une action très rapide avec des garanties qu'a confirmé le Premier ministre. Après, c'est un sujet qui est difficile parce que c'est un sujet politique. Et là, nous revenons à ce qu'est réellement la politique, c'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, forcément, les opposants diront que vous n'avez rien fait, ou que vous avez trop fait, ou que vous voulez aller trop vite, ou que vous ne respectez pas la justice. Ce n'est absolument pas le cas, bien évidemment. Et je me bats tous les jours pour que le TGI de Carpentras reste à Carpentras et surtout garde, voire même récupère des capacités supplémentaires.
Est-ce qu'il y aura un calendrier, juste moins, ou plus ou moins, ou pas ?
Alors, je ne suis pas ministre, je ne peux pas vous définir les calendriers, mais le rapport a été rendu. Je pense qu'on va vers un texte qui devrait commencer en septembre.
Très bien. Je pense qu'on peut parler aussi de l'écologie. C'est un sujet assez important, Théo.
Je t'en prie, Florian.
Ah, bah, alors, du coup, je pose la question sur l'écologie. Les économies vertes, voilà la green tech verte, on en parlait en antenne tout à l'heure, c'est un nouveau type d'économie, est-ce qu'on peut en parler peut-être, en détail ?
On peut et on doit surtout en parler, c'est un sujet, une autre personne qui a ce territoire bien à cœur, qui s'appelle Brune Poirson, secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire auprès de Nicolas Hulot, est chargée de ce dossier-là. Donc tout ce qui est green tech verte pour vos auditeurs, ce sont des entreprises qui travaillent sur la transition écologique, donc suivant le mode de la start-up. Voilà. Et nous avons la chance aujourd'hui sur Carpentras d'avoir une entreprise qui s'appelle Lumiin, qui a été lauréate de ce label Green Tech et qui est en plein développement, qui est allée au CES de Las Vegas défendre nos couleurs avec la région, et qui a eu le bonheur d'être lauréate au CES. Et c'est une entreprise qui fabrique, par exemple, voilà, pour des éclairages solaires pour les collectivités et qui, dans son plan, on appelle ça un business plan, en fait, a aussi une partie économie circulaire puisque prochainement, ce qu'il souhaiterait développer, c'est récupérer les vieilles batteries de voitures pour accumuler de l'énergie dans ces lampadaires et pouvoir la redistribuer au niveau des bornes de rechargement automobile. Voilà.
Donc il y a plusieurs dossiers, on voit, qui vous tient à cœur et auxquels vous traitez au quotidien. Le tribunal de grande instance de Carpentras, on l'a dit. Il y a également le parc du Ventoux. Vous pouvez nous détailler en détail ?
Disons que quand on est arrivé, on s'est retrouvé face à une problématique parc Ventoux. Et on s'est rendu compte que les différentes politiques qui ont été menées ces dernières années n'ont fait qu'opposer les gens autour d'un projet qui, normalement, était censé tous les rassembler. Moi, je pense sincèrement que le parc Ventoux, c'est une chance pour notre territoire. C'est un label qu'on met. Aujourd'hui, vous dites Vaucluse, on vous dit Ventoux. Donc ce qu'il faut, c'est essayer de pérenniser sur ce Ventoux, essayer de développer, on va dire, la marque Ventoux autour d'un parc. Et un parc pour quoi faire ? Un parc pour certainement préserver quelques belles choses que nous avons sur ce Ventoux, notamment la faune, la flore. Ce qui ne veut pas dire qu'un chasseur ne pourra plus aller chasser, ce qui ne veut pas dire qu'un randonneur ne pourra plus randonner. Les gens font souvent l'amalgame aussi entre les parcs naturels régionaux et les parcs nationaux. Ça ne sera qu'un parc national régional. Et nous savons, économiquement parlant pour le territoire, nous savons que quand l'État investit 1 euro dans un parc, il y a 7 euros de retombées économiques pour l'ensemble des habitants de ce parc. Donc je pense qu'il est important de le défendre intelligemment. C'est ce qu'a voulu la région avec Renaud Muselier et Jacqueline Bouillac. Et c'est un dossier, oui, comme vous le dites, qui me tient très à cœur parce que, économiquement parlant, c'est une valeur ajoutée à notre territoire.
Il y a le dossier aussi de la prison d'Entraigue qui, j'imagine, ça aussi, ça vous tient à cœur. Pouvez-vous nous en dire un mot ?
Alors, la prison d'Entraigue, je vais vous en dire un mot, c'est la garde des Sceaux a décidé d'augmenter le nombre de places de prison et Entraigue fait partie naturellement des communes choisies. C'est une mission de service public, ce qu'on a tendance à oublier, et quand l'État décide de mettre un endroit pour du service public, il ne faut pas oublier aussi qu'il met des emplois sur la circonscription. Et aujourd'hui, la prison d'Entraigue sera représentée par 400 emplois supplémentaires sur le territoire. Et donc, c'est sûr que cette prison fait débat, c'est normal. Je suis là pour en discuter avec les élus locaux, avec les habitants, avec les différentes associations qui défendent ou non ce projet. Par contre, voilà, je reste toujours sur les bases qui ont été évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire que quelque chose qui est vecteur d'emploi, vecteur de formation, c'est quelque chose que je soutiendrai.
Et justement, s'il y a des personnes qui sont inquiètes à ce sujet, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les rassurer ?
Je leur dis de venir me voir, de venir en parler avec moi. Et je leur dis surtout qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur d'une prison. Il faut, alors pas forcément s'en réjouir, mais encore une fois, pour une ville comme Entraigue, c'est 400 emplois. Donc 400 personnes qui vont s'installer à proximité d'Entraigue. Et on parlait tout à l'heure de l'action cœur de ville. Entraigue ne fait pas partie de l'action cœur de ville. Par contre, je suis certain que 400 personnes qui réinvestissent un centre-ville vont le faire fonctionner aussi.
Alors justement, on va en revenir aussi sur les sujets quand vous êtes parlementaire qui ressortent le plus, en tout cas.
Bah, dites-moi.
quels sont-ils ? Voilà, les questions qu'on peut vous poser qui ressortent le plus au niveau de parlementaire. Quand on vient
à ma permanence,
à votre permanence, voilà, exactement.
Alors, à ma permanence, on va me poser tout un type de questions, puisque j'ai le bonheur d'avoir une collaboratrice qui rencontre des gens venant de tous horizons. Et nous ne nous privons de rien. C'est-à-dire que je peux avoir une entreprise qui cherche à venir investir chez nous. Je peux avoir... récemment, j'ai eu une dame qui a eu des problèmes parce que son papa était artiste peintre et qu'elle avait donné des œuvres à une fondation. Ça peut être des personnes âgées qui viennent me voir parce que problème de CSG. Donc on regarde ensemble la feuille de retraite pour voir s'il y a un problème. Et s'il y a un problème, on participe. Récemment, je me suis déplacé et j'ai reçu des gens des EHPAD parce que le plan d'Agnès Buzyn parle des EHPAD. Nous rencontrons des gens de l'hôpital. Enfin voilà, nous rencontrons tout ce qui fait le tissu socio-économique de la circonscription et en plus ses habitants pour répondre à leurs différentes inquiétudes. Là récemment, nous avons reçu des collectifs de l'eau qui sont inquiets sur la qualité de l'eau en Vaucluse.
Alors justement, monsieur le député, vous parlez d'eau. Je crois qu'il y a une mission parlementaire en eau. Vous êtes plus ou moins dedans, en tout cas, c'est bien ça.
Je suis plus que moins
plus
dedans.
Plus que moins dedans, voilà.
Étant donné que je suis président de cette mission d'information sur la ressource en eau à l'Assemblée nationale. Donc oui, c'est une mission qui a pour but de faire un état des lieux de la ressource au niveau national, mais pas que. Parce que vos éditeurs ne le savent peut-être pas, mais la gestion de l'eau est européenne. Donc dans le cadre de ma mission, nous nous sommes rendus, et nous nous rendons partout sur le territoire, et dans quelques pays d'Europe, voire à l'étranger, pour faire une analyse de ce qui se fait. Notamment, je prendrai l'exemple, je me suis rendu en Israël, qui pour la circonscription est assez intéressant, car ils ont un développement de l'irrigation en agriculture qui est numéro un mondial. Donc prendre en considération ce qui se passe dans les pays étrangers, c'est très important. Nous sommes partis en Irlande où l'eau est gratuite, donc c'est une doléance de certains de nos opposants politiques. Et nous sommes allés nous rendre compte de ce qu'était l'eau gratuite dans un autre pays et voir comment c'était géré, si c'était efficient ou pas. Et nous nous rendons sur chaque bassin, dans n'importe quel département, où nous rencontrons les agences de l'eau, les agriculteurs, les usagers. Là, je vais me rendre bientôt sur Toulouse et Marseille, où nous allons rencontrer les présidents des canaux, puisque nous avons la chance, le Vaucluse a une chance qui est assez rare en France, c'est d'avoir des canaux d'irrigation. Et nous anticipons, essayer d'anticiper dans ce rapport ce que va être le changement climatique. C'est-à-dire que demain, on sait que l'eau va être une ressource rare, notamment pour les départements du Sud, mais pas que. Et il va falloir l'anticiper à tous les niveaux. Et ça sera le but de ce rapport, d'apporter une vision sur ces différentes actions à prendre.
Adrien Morenas, récemment, vous avez été désigné par le président de l'Assemblée nationale pour siéger au sein de la dotation d'équipement des territoires ruraux. Oui. Et j'aimerais savoir en quoi consiste cette dotation.
Alors la dotation d'équipement sur les territoires ruraux, on va l'appeler DETR. La DETR est une aide de l'État aux petites communes, donc des communes rurales, pour le développement. Récemment, nous avons voté dans la circonscription voisine, qui est la cinquième circonscription, une dotation d'à peu près 1 million d'euros sur 3 ans. Et on va retourner dans le cadre de ma mission, puisque c'est pour l'équipement, pour acheminer l'eau sur le plateau de Sceaux, parce qu'aujourd'hui, il y a une grosse problématique d'acheminement de l'eau. Il y a certains villages qui, l'année dernière, se sont retrouvés qui se sont retrouvés sans eau pendant l'été. Donc aujourd'hui, nous devons le droit à l'eau, c'est un droit fondamental, et la DETR va aider là-dessus, et pareil, va aider les investissements sur toutes les communes rurales pour leur permettre le développement.
Alors, Monsieur Morenas, quels sont les dossiers prévus pour la jeunesse, en tout cas, que vous soutenez aussi peut-être ?
Alors, pour la jeunesse, nous avons eu une loi qui fait débat aujourd'hui au sein des universités. Nous avons modifié APB en Parcoursup. Alors, pour avoir vécu APB, je suis très heureux que Parcoursup ait été voté, parce que ça simplifie quand même grandement le parcours de l'étudiant. Et contrairement à ce qui a été dit, nous ne faisons pas de sélection. Nous continuons à prendre chaque élève qui se présente aura sa place à l'université. La seule différence, peut-être, c'est que nous voulons pour nos jeunes une réussite totale. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on se présente avec un parcours qui est un peu atypique, et j'en ai fait partie, je suis bien placé pour vous en parler, on se retrouve des fois à l'université avec des lacunes et tout ça. Et Parcoursup permettra simplement de pallier à ces défaillances en expliquant à l'élève, au futur étudiant, qu'il faut par exemple qu'il se réoriente ou que s'il veut suivre cette orientation, il doit suivre quelques cours pendant les vacances d'été pour une remise à niveau. Ensuite, nous allons mettre en place le chèque de 500 euros pour la jeunesse, donc il y a le pass culture. Je pense que dans une région comme la nôtre, le pass culture, c'est quelque chose qui est assez important. Nous voyons que Carpentras essaie de se développer par le biais de différents festivals. Nous allons avoir le Colors, mais nous avons aussi des pièces de théâtre, nous avons un festival l'été. Je n'ai plus besoin de présenter le festival d'Avignon, qui est mondialement connu, mais nous savons que le Vaucluse est un point culturel en France majeur. La seule problématique qui se posait pour le département du Vaucluse et plus globalement pour l'ensemble du territoire national, c'était l'accès à la culture pour les jeunes. Et ce PASS aujourd'hui essaye de remédier à cet accès en le rendant universel et en permettant à chacun de pouvoir aller où il veut, comme il veut et quand il veut.
Monsieur Adrien Morenas, peut-être le mot de la fin avant de se dire à bientôt.
Bien écoutez, en tout cas je vous remercie de cette initiative. J'invite toutes les personnes qui seraient susceptibles de vouloir me poser des questions à soit aller sur mon site, soit venir à ma permanence nous rencontrer. Et je vous attends avec une grande impatience.
Merci Monsieur Adrien Morenas. Je rappelle, vous êtes député de la 3e circonscription de Vaucluse. Merci d'avoir participé à cette première émission de l'émission donc Un homme, un territoire. Et à très prochainement, peut-être ici même sur notre antenne.
Bien, je vous remercie et au revoir à tous vos auditeurs.
Merci.
Merci à vous.
Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne d'RTVFM dans le premier numéro de l'émission Un homme, un territoire, une émission qui fera découvrir un homme, un attachement à son territoire, un métier, une passion. Nous recevons donc aujourd'hui pour ce premier numéro Monsieur Adrien Morenas, élu député de la 3e circonscription de Vaucluse au parti LREM La République En Marche. Monsieur Adrien Morenas, bonjour.
Bonjour à vous et bonjour à tous vos auditeurs.
Merci et merci donc d'avoir accepté l'invitation pour participer à cette émission. Je rappelle, vous êtes né le 1er janvier 1982 à Carpentras. Vous êtes donc un homme au plus près de votre territoire. Vous êtes aussi élu député donc de la 3e circonscription de Vaucluse en fonction depuis le 22 juillet 2017. Pour cette interview, je serai accompagné de Théo. Bonjour Théo.
Bonjour Florian, bonjour André Morinas.
Bonjour Théo.
Alors justement, on va attaquer tout de suite avec une première question. J'aimerais savoir pourquoi vous avez décidé d'intégrer un parti politique comme La République En Marche et qu'est-ce qui vous a intéressé? Qu'est-ce qui vous intéresse dans la politique? Est-ce que vous avez toujours été intéressé en tout cas?
Alors, la politique, oui, est un... on ne tombe pas dedans du jour au lendemain. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Mais de là à franchir le cap de rentrer dans un parti... C'était, je ne me sentais représenté par aucun parti qui existait à l'époque. Et est arrivé Emmanuel Macron avec le parti La République En Marche et avec cette envie d'avancer, de changer les choses. Ce côté participatif aussi qui m'a de suite plu, c'est-à-dire que chacun a son mot à dire. Et j'ai décidé de passer le cap et de m'engager au sein de La République En Marche pour les élections présidentielles. Et un des autres éléments déclenchants qui m'a fait dire qu'il fallait que j'aille... que je fasse de la politique, ont été les élections régionales où le Front National a fait des scores quand même qui, sur notre département, étaient très importants.
Alors, est-ce que vous pouvez nous retracer, monsieur Adrien Morinas, votre parcours avant de devenir député, voilà, de votre enfance jusqu'à il y a quelques mois?
Eh bien, une enfance passée entre Saint-Didier, lieu où j'ai vécu, et Avignon, où j'étais au collège et au lycée. Je suis parti à l'armée à l'âge de 17 ans. J'ai intégré la marine nationale. J'ai été affecté à bord du porte-avions Charles de Gaulle. Et pendant mes années de marine nationale, j'ai pu me rendre sur différents théâtres d'opération, mais plus particulièrement l'Afghanistan. En 2008, j'ai quitté l'armée et j'ai rejoint une entreprise qui s'appelle Camiva, qui faisait des camions de pompiers. Et j'étais responsable de maintenance à l'international pour cette entreprise pendant 2 ans. Et j'ai décidé de la quitter également. J'ai monté une entreprise dans le bâtiment, donc j'étais entrepreneur. Et à 30 ans, j'ai décidé de me réorienter et de changer complètement ma vie en devenant étudiant en ostéopathie.
On l'a dit, hein, vous êtes député dans la 3e circonscription du Vaucluse. En parallèle, vous déplacez également à l'Assemblée nationale. Au niveau de votre emploi du temps, c'est pas trop compliqué à gérer tout ça?
Non. C'est un rythme à prendre. Comme tout nouveau, quand vous avez un nouveau travail, il faut prendre le rythme et le pouls de ce qui se passe. C'est un emploi où tout va très vite. Tout va très vite, donc l'adaptation doit être rapide, mais on est très bien épaulé et on nous conseille pour agir au mieux et s'adapter le plus rapidement possible. Après, c'est sûr que c'est un travail qui prend du temps. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, donc c'est un rythme à prendre.
Alors peut-être avant-dernière question, avant de faire une pause musicale, quelle est la journée et la semaine type d'un jeune député?
Alors ma semaine se divise en deux parties. J'ai une partie sur Paris où je reste 3 jours, donc le mardi, le mercredi et le jeudi. Et après, une partie en circonscription le reste de la semaine. Les lundis sont dédiés au public, donc c'est-à-dire que je reçois au sein de ma permanence l'ensemble des administrés qui souhaiteraient me rencontrer. Et après, je me rends aux différents rendez-vous que nous avons pu fixer durant la semaine. On en parlera peut-être plus tard, je suis également président de la mission d'information sur la ressource en eau. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup de déplacements au titre de cette mission et je travaille aussi sur la mission d'enquête sur le nucléaire en France qui me prend également une petite partie de la semaine.
Et j'aimerais savoir quel est votre lien au quotidien avec votre circonscription?
Il est très étroit. Nous avons la chance d'avoir des équipes au sein de la circonscription qui, pendant mes jours d'absence, prennent le relais et reçoivent les différents administrés et nous font un débrief de tout ce qui se passe en circonscription. Et j'ai envie de dire que la circonscription, elle ne quitte jamais, puisque en fait, quand nous sommes élus pourquoi? Pour représenter notre circonscription. Donc à chaque fois que je prends une décision, j'essaye de la prendre en fonction de ce qui est bénéfique pour la circonscription.
Alors, dernière question, du coup, monsieur Adrien Morinas, pour cette première partie, on va parler un peu plus de médias radio. Quel est votre style musical, voilà, que vous préférez quand vous écoutez la radio, quand vous écoutez la musique?
assez éclectique. J'ai été élevé par une maman qui écoutait beaucoup de rock'n'roll. Et donc j'ai été élevé aux Doors, aux Stones et autres Pink Floyd. Et jusqu'au milieu des années 90, où j'ai découvert un groupe qui s'appelle Daft Punk, et je me suis plus orienté vers tout ce qui est électro. Je reste cependant toujours adepte du rock et de la pop.
En tout cas, Adrien Morinas, merci. On va évidemment faire une petite pause musicale avec les Daft Punk, justement, un groupe que vous adorez tant. Et après, on va revenir pour la deuxième partie de cette émission, Un homme, un territoire sur RTVFM. À tout de suite.
À tout de suite.